La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font. Avec les conseillers
Séverine Tréchard et Alice Laplume. Bonjour Alice.
Bonjour Séverine.
Évoquons d'abord l'actualité de la Chambre sociale de la Cour de cassation avec deux décisions des 15 et 22 mai 2024 relatives aux travailleurs handicapés et à la mesure d'instruction en matière d'inaptitude. Nous ferons ensuite un focus sur un arrêt du 7 février dernier portant sur le contrat à durée indéterminée intérimaire.
Commençons par notre premier arrêt rendu en plénière de chambre le 15 mai 2024 qui porte sur les obligations de l'employeur au regard des dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés. L'employeur doit-il tenir compte du statut de travailleur handicapé du salarié déclaré inapte à l'occasion de la recherche de reclassement?
Pourrais-tu préciser, Alice, l'effet de l'espèce?
Il s'agissait d'une salariée qui avait été engagée en qualité d'agent de nettoyage et qui avait été reconnue travailleur handicapé. Elle a saisi la juridiction prud'homale après avoir été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle faisait valoir que l'employeur était informé de son statut de travailleur handicapé et qu'il aurait dû mettre en œuvre les mesures appropriées prévues par l'article L5213-6 du Code du travail. Elle estimait qu'à défaut, son licenciement était nul, car discriminatoire.
Alors que dit cet article L5213-6 ?
Il s'agit d'une transposition de la directive européenne du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre généralisé en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Cet article détaille les modalités de mise en œuvre par l'employeur de son obligation particulière à l'égard d'un salarié ayant le statut de travailleur handicapé. Dans son premier alinéa, il précise que pour garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes travailleurs handicapées d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification de l'exercer ou d'y progresser, ou alors pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Dans son deuxième alinéa, il indique que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées. Enfin, il prévoit dans son troisième alinéa que le refus de prendre les dites mesures appropriées peut être constitutif d'une discrimination.
Pourrais-tu nous parler de la spécificité de la discrimination en raison du handicap qui résulte de cet article ?
Il n'est pas question ici, Séverine, d'une discrimination imposant à l'employeur des obligations négatives. En fait, il n'est pas seulement demandé à l'employeur de ne pas moins bien traiter les salariés handicapés que les autres salariés, comme c'est le cas pour les discriminations syndicales ou les discriminations en raison du sexe ou des convictions religieuses. L'article L5213-6 du Code du travail met en évidence une particularité de la discrimination en raison du handicap. Il impose à l'employeur de traiter plus favorablement ses salariés que les autres pour rétablir l'égalité entre eux. L'employeur a ainsi l'obligation de prendre des mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'exercer son emploi ou de le conserver.
Alors, quel est l'apport de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mai 2024 ?
Le pourvoi ayant donné lieu à cet arrêt offre l'occasion à la Cour de cassation de donner un mode d'emploi au juge du fond quant au raisonnement à tenir lorsqu'un salarié, dont le statut de travailleur handicapé est connu de son employeur, invoque la violation par celui-ci de son obligation de prendre des mesures appropriées prévues à l'article L5213-6 du Code du travail. Tout d'abord, la Cour de cassation rappelle que s'agissant d'une action fondée sur l'existence d'une discrimination en raison du handicap, le mécanisme particulier à la charge de la preuve de la discrimination est applicable.
Nous avons rappelé quel était ce mécanisme dans le podcast numéro 27. Comment articuler, Alice, ce régime probatoire avec l'obligation pour l'employeur de prendre des mesures appropriées aux travailleurs handicapés?
S'agissant des deux premières étapes du raisonnement, la Cour de cassation indique que le juge doit rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, telle que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagement raisonnable, le cas échéant sollicité par le salarié ou préconisé par le médecin du travail ou le comité social et économique, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.
Donc, le salarié ne peut se contenter de faire état de sa qualité de travailleur handicapé au titre des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination. Il doit mentionner quelles mesures appropriées l'employeur aurait dû prendre.
Tout à fait. S'agissant de la troisième étape du raisonnement, la Cour de cassation précise qu'il appartient au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées, ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en œuvre.
Poursuivons avec l'arrêt rendu le 22 mai 2024 qui porte sur le régime de la mesure d'instruction qui peut être ordonnée en application de l'article L 4624-7 du Code du travail par le juge saisi d'un recours contre l'avis d'inaptitude. Ce texte impose la désignation d'un médecin inspecteur du travail pour réaliser cette mesure d'instruction. Dans ces conditions, le juge peut-il désigner un autre expert ? C'est la question à laquelle a répondu la Cour de cassation.
Et cette réponse aura des effets pratiques indéniables, car les juges du fond qui ordonnent une mesure d'instruction sur le fondement de cet article sont régulièrement confrontés à l'indisponibilité des médecins inspecteurs du travail, qui ne sont que 23 sur toute la France. Et c'était d'ailleurs le cas dans l'affaire qui a amené la Cour de cassation à se pencher sur cette difficulté. En espèce, la salariée, déclarée inapte par le médecin du travail, a saisi le conseil de prud'homme d'un recours contre l'avis d'inaptitude selon la procédure accélérée au fond.
Nous avons déjà évoqué cette procédure de contestation des avis du médecin du travail dans les podcasts numéro 13, 23 et 24. Rappelons simplement que l'article L 4624-7 du Code du travail prévoit notamment que saisie d'un recours contre l'avis du médecin du travail, le conseil de prud'homme peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
Dans notre affaire, conformément à cet article, le conseil de prud'homme a désigné le 29 septembre 2020 un médecin inspecteur du travail afin de réaliser une expertise. Mais le 31 mars 2021, il a désigné en remplacement de ce médecin inspecteur du travail un autre médecin n'ayant pas cette qualité, puisqu'il s'agissait d'un médecin généraliste inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel. Enfin, le 22 janvier 2022, il a statué en s'appuyant sur le rapport d'expertise déposé par le second expert, ce que la cour d'appel a approuvé.
Pourtant, l'article R 4624-45-2 du Code du travail ne prévoit que la possibilité de désigner un autre médecin inspecteur du travail en cas d'indisponibilité du médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
C'est vrai, Séverine, mais la Cour d'appel a souligné, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que les juridictions prud'homales étaient régulièrement confrontées à l'impossibilité de trouver sur le territoire national un médecin inspecteur du travail pour réaliser la mesure d'instruction qu'elles souhaitent leur confier. Ce qui avait été précisément le cas dans notre affaire. La juridiction d'appel a rappelé que le recours instauré par l'article L 4624-7 du Code du travail était conçu comme appelant une réponse judiciaire rapide à ce type de litige, puisque le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Ce juge est donc confronté à la question du délai raisonnable et à la nécessité d'un éclairage sur la question de fait que constitue l'état de santé du salarié.
Il faut rappeler qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude a été émis le 1er juillet 2020. Alors qu'il avait été saisi le 9 juillet suivant, le conseil de prud'homme se trouvait toujours 9 mois après dans l'impossibilité de désigner un médecin inspecteur du travail. La Cour de cassation a-t-elle approuvé le raisonnement de la Cour d'appel ?
Absolument, Séverine. Et elle s'est appuyée sur l'article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Selon cet article, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. En application de ce texte, la Cour européenne des droits de l'homme juge que lorsque la collaboration d'un expert s'avère nécessaire au cours de la procédure, il incombe au juge d'assurer la mise en état et la conduite rapide du procès. Pour permettre au juge de respecter le standard européen du délai raisonnable, la Cour de cassation l'autorise donc, dans l'arrêt rendu le 22 mai 2024, à désigner un autre expert que le médecin inspecteur du travail.
Mais elle y met une condition.
En effet, il faut que le juge ait constaté qu'aucun médecin inspecteur du travail n'était disponible pour réaliser la mesure d'instruction. Et nous poursuivons la sociale Le Mag avec notre décryptage qui porte sur un arrêt du 7 février dernier. Cet arrêt est relatif au droit du salarié intérimaire ayant conclu un contrat à durée indéterminée intérimaire, dit le CD2I. Selon cet arrêt, l'existence d'un CD2I n'empêche pas le salarié intérimaire de solliciter, d'une part, la requalification de son ou ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, d'autre part, les droits résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en cas de rupture des relations contractuelles à l'expiration d'une mission, à l'initiative de l'entreprise utilisatrice. Séverine, pour bien comprendre cet arrêt, il nous faut d'abord évoquer le régime du travail temporaire.
Effectivement, Alice. Rappelons à nos auditeurs que le travail temporaire consiste en une relation tripartite. Une entreprise de travail temporaire met un salarié dit intérimaire à la disposition d'une entreprise utilisatrice. Un contrat de mise à disposition est alors conclu entre les deux entreprises. Et l'entreprise de travail temporaire conclut un contrat de mission avec le salarié. Ce contrat de mission doit répondre à un certain nombre d'exigences. Au nombre de ces exigences figure l'interdiction de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Figure également l'obligation de faire appel à un salarié intérimaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. La loi énumère divers cas de recours qui sont exhaustifs. Dans les cas de recours les plus courants, nous trouvons l'accroissement temporaire d'activité ou encore le remplacement de salariés absents.
Oui, et le non-respect de ces exigences nourrit un contentieux important, celui de la requalification du ou des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
C'est exact. L'article L1251-40 du Code du travail prévoit qu'en cas de méconnaissance de ces exigences, le salarié intérimaire peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié intérimaire peut aussi agir contre l'entreprise de travail temporaire en requalification de son ou ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée. La Cour de cassation a précisé que cette action était possible lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas respecté les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'œuvre est interdite. Nous pouvons citer par exemple la situation dans laquelle aucun contrat de mission n'a été conclu ou signé. Également l'hypothèse dans laquelle les mentions exigées par l'article L1251-16 font défaut. Parmi ces mentions se trouve la qualification professionnelle du salarié, c'est-à-dire l'emploi occupé.
Peut-on imaginer que le salarié intérimaire agisse contre les deux entreprises sur des fondements distincts ?
Tout à fait, Alice. Dans un arrêt publié du 20 mai 2009, la Cour de cassation a admis la possibilité d'actions concurrentes ayant des fondements distincts. L'intérêt de cette solution est d'offrir aux salariés intérimaires une option pour obtenir réparation. Mais cette possibilité d'action concurrente ne peut avoir pour effet de permettre une double indemnisation du salarié intérimaire. C'est ce que la Cour de cassation a jugé le 20 décembre 2017. Dans cette affaire, elle a approuvé une cour d'appel qui avait rejeté les demandes d'une salariée tendant au versement par l'entreprise de travail temporaire, cumulativement avec les condamnations prononcées contre l'entreprise utilisatrice, de sommes au titre de la requalification et de la rupture des relations contractuelles. Dans un arrêt publié du 24 avril 2024, et dans la même logique, la Cour de cassation a précisé qu'en cas de nullité de la rupture du contrat à durée indéterminée, résultant de la requalification du ou des contrats de mission, le salarié ne peut obtenir tout à la fois sa réintégration au sein de l'entreprise utilisatrice et l'indemnisation de la rupture auprès de l'entreprise de travail temporaire.
Alors Séverine, venons-en au CD2I. Faisons un peu d'histoire avant de voir comment ce dispositif s'articule avec les règles qui viennent d'être exposées. Ce dispositif a été mis en place récemment.
En effet, le CD2I a été créé par un accord de branche du 10 juillet 2013. La loi du 17 août 2015 a généralisé ce dispositif à titre expérimental, et ce jusqu'au 31 décembre 2018. Le dispositif a été pérennisé par la loi du 5 septembre 2018, qu'il a inséré dans le Code du travail aux articles L. 1251-58-1 et suivants. L'objectif était, selon les travaux parlementaires, de réduire la précarité des travailleurs intérimaires. Pour y parvenir, l'idée du CD2I est d'offrir une certaine stabilité aux salariés intérimaires. Le dispositif prévoit ainsi que les périodes d'intermission sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l'ancienneté. Il prévoit en outre le versement d'une rémunération mensuelle minimale garantie.
Comment fonctionne le CD2I exactement ?
Le CD2I conclu entre une entreprise de travail temporaire et un salarié a pour objet l'exécution par ce dernier de missions successives. Chaque mission donne lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'établissement par l'entreprise de travail temporaire d'une lettre de mission. La loi prévoit que des exigences applicables au travail temporaire sont également applicables au CD2I. Il en va ainsi notamment de l'interdiction de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ou encore de l'obligation de faire appel à un salarié intérimaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
Cela veut donc dire qu'en cas de méconnaissance de ces exigences, la requalification d'une mission conclue dans le cadre d'un CD2I en contrat à durée indéterminée de droit commun est encourue ?
Eh bien oui, Alice. La loi elle-même prévoit qu'en cas de méconnaissance par l'entreprise utilisatrice d'exigences qui la concernent, comme celles que nous venons d'évoquer, le salarié intérimaire peut faire valoir auprès d'elle les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée. Et dans un arrêt rendu le 25 janvier 2023, la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution du dispositif de requalification-sanction ainsi applicable. Dans cette affaire, une atteinte à la liberté contractuelle et au droit au maintien des conventions légalement conclues était invoquée. La Cour de cassation a retenu que le dispositif de requalification-sanction était justifié par un motif d'intérêt général de lutte contre la précarité pouvant résulter du recours abusif à l'emploi du travail temporaire. L'atteinte suivisée n'était donc pas disproportionnée.
Cet arrêt amorçait donc la coexistence entre, d'une part, un CD2I conclu entre une entreprise de travail temporaire et un salarié intérimaire, d'autre part, un contrat à durée indéterminée de droit commun liant ce dernier à l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle les contrats de mission ont été requalifiés. Mais dans cette hypothèse, comment les deux relations contractuelles peuvent-elles s'articuler ?
Bien, c'est tout l'intérêt de l'arrêt du 7 février 2024. Dans cette affaire, une entreprise de travail temporaire avait mis une salariée à la disposition d'une entreprise utilisatrice dans deux cadres juridiques distincts. Dans un premier temps, c'est le régime juridique du travail temporaire qui s'est appliqué. L'entreprise de travail temporaire avait en effet conclu un contrat de mission avec la salariée. Dans un second temps, ces deux parties ont conclu un CD2I. Des lettres de mission ont ainsi été établies. 3 ans après, la salariée n'a plus eu de mission pour l'entreprise utilisatrice. Et quelques mois plus tard, elle a été licenciée par l'entreprise de travail temporaire. Entre-temps, elle avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses missions en contrat à durée indéterminée et l'indemnisation de la rupture étant résultée de la cessation des relations de travail avec l'entreprise utilisatrice. La Cour d'appel a accueilli les demandes de la salariée dirigées contre l'entreprise utilisatrice. Elle a en outre accueilli ces demandes dirigées en cours de procédure contre l'entreprise de travail temporaire. Celle-ci consistait à dire que le licenciement qu'elle avait prononcé était sans cause réelle et sérieuse et à indemniser la salariée de ses conséquences.
La Cour de cassation a approuvé cette décision.
En effet, c'était pour elle l'occasion de confirmer dans un débat de fond la possibilité d'un cumul entre le CD2I et le contrat à durée indéterminée résultant de la requalification sanction dont nous venons de parler. La règle est donc la suivante. Même dans l'hypothèse où le salarié est titulaire d'un CD2I, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l'article L. 1251-40, il peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat à durée indéterminée.
L'entreprise utilisatrice contestait pourtant la possibilité de ce cumul de contrats à durée indéterminée.
Mais c'est oublier d'abord que le cumul de contrats à durée indéterminée est juridiquement possible. Rien n'interdit en effet à un salarié de cumuler 2 emplois, ce y compris en contrat à durée indéterminée. La seule limite posée par la loi est de ne pas dépasser la durée maximale de travail. C'est oublier ensuite que les deux relations contractuelles ont un fondement juridique et un objet distinct. Le CD2I a pour objet, nous l'avons vu, d'offrir une certaine stabilité aux salariés intérimaires. Mais il est loin d'offrir les mêmes garanties que le contrat à durée indéterminée de droit commun. L'arrêt du 7 février était ensuite l'occasion de différencier la situation du CD2I de celle d'un contrat de travail temporaire classique. Nous avons vu en effet que dans ce dernier cas, par l'effet de la requalification sanction, le salarié intérimaire se trouvait dans une unique relation contractuelle. Mais le CD2I est, lui, juridiquement distinct du contrat à durée indéterminée de droit commun résultant de la requalification des contrats de mission. Dès lors, il est tout à fait possible pour le salarié intérimaire de prétendre à la réparation de la rupture, le cas échéant concomitante de ces deux relations contractuelles. Et c'est ce que la Cour de cassation a décidé. Elle juge ainsi que nonobstant l'existence d'un CD2I, la rupture des relations contractuelles à l'expiration d'une mission à l'initiative de l'entreprise utilisatrice s'analyse si le contrat est requalifié à son égard en contrat à durée indéterminée en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture.
On le voit bien, le CD2I peut être un outil de flexibilité au service tant des entreprises que du salarié. Mais parce qu'il maintient ce dernier dans une situation de précarité, il reste soumis à un formalisme strict. Et c'est la fin de notre podcast. Les arrêts peuvent être retrouvés sur le site de la Cour de cassation avec les numéros de pourvoi 22-11-652, 22-22-321 et 22-20-258 à la lettre de la Chambre sociale, ainsi que, s'agissant des deux premiers de ces arrêts, au rapport annuel de la Cour de cassation. Vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans ce podcast sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Merci Séverine.
À bientôt Alice.